Il est 19h sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris, c'est aussi 24h sur 24 sur la RNT.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est la radio numérique terrestre.
C'est comme la TNT, mais pour la radio.
Exactement. Il suffit juste d'avoir un récepteur compatible et zou toute la journée Radio Campus Paris dans ton poste.
Ça, c'est chouette.
Oh yeah.
93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Camping Paris, le retour de votre émission estivale préférée, parce que oui, jusqu'au 21 septembre, c'est encore l'été. Alors chers auditeurs, il est de bon augure en cette journée de beau temps de penser que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes désormais frais et dispo d'attaque pour la rentrée. Parce que oui, au cas où vous ne le sauriez pas, après tout, ce n'est pas la rentrée pour tout le monde, mais les vitrines de boutiques, les unes de journaux, les statuts sur les réseaux sociaux et le bronzage de vos voisins tentent à nous le rappeler. Oui, vos voisins qui sont partis aux Caraïbes, ces gros connards, alors que nous, on est là pour vous rappeler que la rentrée, c'est aussi le retour de Radio Campus Paris sur les ondes. Est-ce que c'est pas formidable ? Que vous soyez parti chez votre vieille tante en Picardie, avec vos potes sur les routes de randonnée, ou avec votre moitié sous le soleil des îles, on espère quand même que c'était l'éclat de ces vacances. Mais il est désormais temps d'admettre que c'est fini, et pourtant, Radio Camping est là pour toi, et pour toi tout le mois de septembre. Alors pour continuer de glander et pour commencer à procrastiner, parce qu'il faut avouer qu'en août c'est quand même un peu compliqué de procrastiner, on est là pour vous parce que les vacances et la bronzette, c'est dans la tête qu'on vous dit. Et ce soir avec moi sur le plateau, on a que du beau monde, enfin un peu comme d'habitude. À ma gauche, j'ai Violette Voldoir, la MacGyver des journalistes radio, toujours sur le point, quoi qu'il en soit, sur le pont, pardon, et même quand elle n'a rien à faire, elle vient ici rien que pour le plaisir. Bonsoir Violette.
Bonsoir.
Et j'ai également Martin, et oui, le Martin qu'on connaît bien à Radio Campus.
Salut.
Enfin, on le présente plus. Bonsoir Martin.
Bah, content d'être là.
Alors Martin, dans les mois qui viennent, tu vas couvrir la présentation de la fameuse COP21, la conférence internationale sur le climat et l'environnement, qui aura donc lieu au Bourget du 30-11 décembre prochain. Dans ce cadre, Radio Campus Paris sera sur le terrain, avec des chroniques, des reportages, des émissions en direct, bref, tout un programme de festivités dont on vous tiendra au courant, pour vraiment couvrir ce moment décisif. Et c'est donc pour ça que tu as choisi de nous parler aujourd'hui d'un événement qui marque l'entrée dans les derniers 100 jours avant la COP21, la conférence des ambassadeurs.
Oui, c'est ça. Alors exactement, hein. Déjà que les choses soient claires dès le départ, la semaine des ambassadeurs, la conférence est presque pareil, la semaine des ambassadeurs, ça n'a rien à voir avec une marque de rocher en chocolat bien connue.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités.
Voilà, un goût raffiné qui charme toujours les invités. Donc non, la semaine dernière, il n'y a pas eu de soirées qui sont toujours une réussite, mais bien 4 jours de rencontres entre des diplomates et le grand public. On a donc eu le droit à la situation en Ukraine, aux conséquences de l'accord signé en juillet avec l'Iran, mais surtout, on a parlé conférence environnementale. Alors tu l'as dit, Florent, elle se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre, et c'est le gros dossier du moment pour Laurent Fabius et toute son administration, bien sûr. Du coup, François Hollande l'a évoqué dans son discours du mardi 26 août. Toute la journée du 27 août, le mercredi, a été consacrée spécialement à la COP21. Il y avait même le secrétaire général de l'ONU, un Ban Ki-moon. Et 2 jours plus tôt, le lundi, une table ronde sur la conférence s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, donc Laurent Fabius, et de Laurence Tubiana, c'est la représentante spéciale de la France pour la conférence de Paris sur le climat.
Alors on va entendre Laurence Tubiana tout à l'heure, mais d'abord Martin, tu as pu interviewer longuement sur le sujet de la COP21, Romain Nadal, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Oui, c'est grâce à Zéphir. Alors Zéphir, c'est l'un de nos bénévoles, un membre entre autres de l'émission Itinéraire Croisé. J'ai pu passer une grosse demi-heure avec Romain Nadal, donc le porte-parole des Affaires étrangères. Et la première chose que j'ai évoquée avec lui, c'est d'abord les ambitions de la France, car on le sait, cette conférence environnementale se veut décisive. Elle doit relancer le protocole de Kyoto sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un accord signé en 1997, entré en vigueur en 2005, il y a tout juste donc 10 ans, et ça commence un peu à dater ce protocole. Il y a des failles, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors à moins de 100 jours de l'ouverture de la conférence, Romain Nadal, la COP21 est-elle sur de bons rails ?
Oui, ça se prépare bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour aboutir à un accord universel et contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a une prise de conscience incontestable au niveau international. On le voit avec les États-Unis, avec la Chine, qui sont des pays clés pour aboutir à un accord. Sans eux, on ne pourrait pas avoir d'accord crédible. Ces États commencent à prendre des engagements forts, importants. Ils en ont pris entre eux et ils en ont pris à l'égard de la communauté internationale. C'est un mouvement d'ensemble de toutes toutes les sociétés qui doivent s'approprier cette problématique pour aboutir à un accord qui soit réellement appliqué. Un accord virtuel ne servirait à rien. Il faut un accord qui soit crédible et dont tous les acteurs de la société, État, collectivités locales, entreprises, organisations non gouvernementales, associations, jusqu'aux simples citoyens, s'approprient cet enjeu et le mettent en œuvre. Si nous aboutissons à un accord à Paris, je crois que le mot d'historique ne sera pas galvaudé.
Alors quand il parle d'accord historique, c'est clairement très ambitieux, hein, c'est pas rien. Est-ce qu'il ne se met pas un peu la pression sur ce coup-là ?
Oui et non, Flore. Lorsqu'on organise une conférence internationale pour sauver la planète, on ne peut pas vraiment annoncer un accord à minima, hein, ça la foutrait un peu mal. Du coup, c'est normal que Laurent Fabius, et ici donc son porte-parole, place la barre un peu haut. Pour Romain Nadal, le gouvernement n'est pas idéaliste, il est pragmatique et surtout bien conscient de l'enjeu.
Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas déraisonnablement optimistes, nous sommes engagés. Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre alternative, sinon la planète sera proprement inhabitable. Et certaines parties, certaines régions entières ne seront plus vivables. C'est un défi pour la diplomatie française, mais si nous parvenons à le relever, ce sera un succès pour notre pays, parce que nous aurons réussi à convaincre toutes les nations qu'il faut un accord universel et contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, donc le but, c'est de provoquer un élan, un enthousiasme autour de ces négociations. Alors le risque, par contre, c'est bien sûr de décevoir, en particulier concernant cet accord contraignant. Pour le moment, personne n'est capable de préciser qu'elle pourrait être concrètement ces sanctions en cas de non-respect de l'accord, par exemple par un gros pays comme la Chine ou l'Inde.
Alors une autre question qui revient beaucoup ces derniers mois à propos de cette COP21, ce sont les rôles des entreprises privées les plus polluantes en principe. En effet, ce sont celles qui sont en première ligne quand on parle de pollutions diverses.
Ce sont les premières concernées, ça c'est sûr. Total, EDF ou encore Eiffage sont dans le viseur des organisations non gouvernementales, comme par exemple Greenpeace ou ATTAC. À travers des campagnes de pub, Total affirme par exemple sa volonté d'être une entreprise plus verte, plus respectueuse de l'environnement. Alors il y a déjà une sorte d'engagement concret des entreprises. La COP est financée. Le privé va assurer entre 10 et 20% des coûts d'organisation de la conférence de Paris. Une implication qui pose donc la question du lobbying de ces grands groupes. Quelle influence vont-ils avoir sur la négociation ? On écoute Romain Nadal sur le sujet.
Je ne crois pas qu'il y ait contradiction, je ne crois pas que ces entreprises pèsent sur la négociation. Elles participent au financement de l'accueil de la conférence en France, mais il n'y a pas d'ingérence dans la position défendue par la France et dans les positions défendues par la France dans la négociation, qui sont des positions de souveraineté qui appartiennent à la France.
Alors pas de pression, pas d'influence, seulement une participation presque désintéressée. Alors la réalité est comme souvent bien plus contrastée, Flore. Si les grandes entreprises n'agissent pas ouvertement contre un accord pour le climat, elles souhaitent bien sûr préserver leur intérêt, comme le révélait au mois d'août un article de la journaliste Jeanne Lingard. Alors elle bosse pour Mediapart. Elle révélait la présence d'un employé de Total dans une commission d'experts techniques pour des négociations à l'ONU. Alors c'est des négociations sur des carburants de bateaux moins polluants. Alors bien sûr, j'en ai parlé avec Romain Nadal, je lui ai posé la question. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères nous a donc répondu.
En l'occurrence, il n'y a absolument pas de conflit d'intérêts. Il s'agit d'un expert technique dans un groupe de travail qui n'est pas un groupe de travail décisionnel, mais qui porte sur la composition du carburant des bateaux. Donc en réalité, on a besoin d'une expertise technique pour évoluer et pour faire évoluer la composition de ces carburants qui doivent être moins polluants. Et cet expert technique porte un avis technique sur cette composition. Ça n'est pas lui qui décide et qui porte la décision française dans le processus décisionnel.
Donc pour vous, seulement un appui de consultant et pas un appui de décision, de réflexion.
Exactement, il s'agit d'un expert technique qui porte un jugement technique sur l'évolution des composants du carburant des bateaux.
Donc pour Romain Nadal, cet intervenant a seulement un point de vue très technique, c'est une sorte de technicien. Mais dis-moi Martin, est-ce que cette question de l'influence des entreprises c'est quand même pas le seul problème qui est ressorti durant cette semaine des ambassadeurs ? Qu'est-ce qui s'y est dit d'autre ?
Non, il y a eu d'autres problèmes, pas mal de choses, mais Flore, avant de tout détailler ces autres problèmes, je voulais compléter rapidement le sujet de Total à l'ONU. J'ai parlé cet après-midi à Jeanne Lingard, donc la journaliste de Mediapart qui a sorti l'article. Elle ne pouvait malheureusement pas être en direct ce soir, mais elle a réagi aux explications de Romain Nadal, elle les a entendues. Alors pour elle, c'est d'abord un aveu, il y avait bien un employé de Total qui a représenté la France dans une négociation internationale, qu'elle soit technique, minimale, etc. Il y avait bien un employé de Total à l'ONU. Ensuite, elle conteste les affirmations de Romain Nadal. Pour Jeanne Lingard, il ne s'agit pas d'un rôle de consultation mineur, mais bien d'un avis décisif, car cette commission auquel participe l'employé de Total, en fait, elle va définir les critères de sélection des experts qui, eux, vont négocier les nouvelles normes sur le carburant.
D'accord.
C'est un peu, elle définit la fiche de poste de ces experts, donc ça joue forcément. Alors là, on est vraiment au cœur du système de lobbying et d'influence des entreprises. Elles ne font pas ouvertement bouger les choses, mais elles placent des pions à des postes clés qui vont assurer les décisions décision plus favorable à leur intérêt. Alors donc, autre sujet à surveiller, tu me demandais. Eh bien, les modalités, bien sûr, de l'accord sont déjà au cœur des débats. Il y a plein de questions qui se soulèvent. Et cela s'est manifesté durant la table ronde sur la COP21. C'était le lundi, le premier jour. Elle terminait la première journée de conférence. Laurence Tubiana, c'est la représentante spéciale de la France pour la conférence de Paris Climat, donc nommée par Laurent Fabius. Elle était invitée à s'exprimer en présence du ministre des Affaires étrangères. Et d'abord, elle a calmé un peu l'enthousiasme de ses collègues sur cette conférence qui se veut historique.
On ne va pas régler tout à Paris. On ne va pas dire le 11 décembre, ça y est, on a la solution pour rester à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Non. On est en train de travailler sur une trajectoire collective qui est faite de plein de trajectoires nationales où chacun a à se battre avec ses conditions. L'Inde avec son énorme consommation de charbon, la Chine avec cela, etc. La Pologne, enfin même en Europe, on a en petit toute la diversité du monde. Donc ce qu'il faut, oui, on peut se mettre d'accord sur un objectif de long terme, sur le fait que tout le monde reconnaît qu'il faut changer. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est rendre des technologies de changement beaucoup moins chères et rendre ces technologies disponibles le plus vite possible.
Donc voilà, rendre les technologies disponibles, permettre aux petits pays, comme on les appelle, d'y accéder le plus rapidement possible. Une belle ambition qui doit permettre donc à des pays en développement d'adopter des énergies plus propres. Et c'est justement là que le bas blesse concernant Laurence Tubiana, car la représentante de la France pour la COP21 détaille les énergies qui, selon elle, sont plus propres. Et il y en a une qui ne va pas faire l'unanimité.
Le gaz de schiste pour les États-Unis, ça a déjà permis de commencer à sortir du charbon. Et ça a été le premier pas en dehors du charbon. Et ça, de certaines... De toute façon, ça a été extrêmement positif, mais c'est forcément transitoire. Il faut aussi savoir qu'il faut pouvoir sortir du charbon, il faut pouvoir sortir du charbon avec quelque chose. Et quelque chose, pour l'instant, la seule chose qui est, je dirais, à la main, c'est le gaz. On comprend qu'effectivement, certains pays essaient de trouver cette solution, encore une fois, de transition, puisque le gaz de schiste, il émet aussi pas mal de gaz à effet de serre, notamment du méthane, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de fuite. Donc, chacun va choisir un peu son chemin et il faut comprendre cette recours au gaz de schiste comme une transition pour sortir du problème numéro un du fuel le plus émetteur qui est le charbon.
Donc en fait, entre le charbon et le gaz de schiste, c'est entre la peste et le choléra, quoi. C'est un peu ça qu'elle a l'air de dire.
De deux mots, choisissons le moindre, c'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, le message, c'est le gaz de schiste, c'est donc toujours mieux que le charbon. Alors une phrase qui va faire plaisir à Total, hein. Grand promoteur de cette énergie et de la fracturation hydraulique, une technique très polluante pour extraire ce gaz. De l'autre côté, c'est Ségolène Royal qui va faire la moue, la ministre de l'écologie. Elle est clairement opposée depuis longtemps à l'utilisation du gaz de schiste en France. Elle a interdit les explorations des recherches scientifiques sur le sujet. Alors peut-être, bon pour les autres et mauvais pour l'Hexagone, ça fera partie des enjeux des négociations du mois de décembre.
Alors à suivre donc, on verra ça un peu avec toi à la fin de la COP mi-décembre. Quels sont les prochains rendez-vous pour Radio Campus Paris ?
Alors il y a pas mal de choses qui vont venir. À Campus, on va traiter ça en reportage, en chronique, tout au long de ces 3 mois, de ces 90 jours maintenant qui nous séparent de la COP21 et ensuite pendant la COP21. Et donc, ce sera dans la matinale souvent de 19h ainsi que sur Internet. Et dès le 27 septembre, pour la journée sans voiture, Radio Campus sera place de la République, donc en direct du village des alternatives écologiques. Ça s'appelle Alternatibas Village. Ce sera une émission spéciale COP21. On vous prépare donc plein de choses. Soyez présents, on sera là.
Eh bien, merci beaucoup, Martin. Et
de
sur
rien.
Ce, on va écouter une petite musique. This moment changes everything. The course of blood within your veins. A stranger's form, your skeleton. See the bones glow as they break free. This moment changes everything. This moment changes everything. De Son Lux. Et donc tout de suite, nous allons t'écouter, Violette. Alors Violette, tu es déjà venue il y a quelques semaines nous parler de ton périple en Asie, mais aujourd'hui ce n'est pas tout à fait pour nous parler de dépaysement ni de choc culturel que tu es venue nous parler ce soir. Enfin, quoique, parce que tu es venue nous éclairer sur cette pratique anthropologique assez étrange qu'est le selfie.
Oui, je suis venue vous parler de ça, puisque tu le disais tout à l'heure, nous sommes à la rentrée. La rentrée, c'est donc la fin de l'été, hein, typiquement, parce que si on rentre, c'est bien qu'on rentre de quelque part. Donc du coup, j'ai décidé de vous parler de selfie, puisque le selfie, c'est nous a... moi personnellement, ça m'a bien gonflé hein, tout l'été. Hein, les gens qui te postent des photos avec leur chien, leur chat, leur hamster, leur mari, leur amant. Enfin, c'est exaspérant, voilà. Donc moi, enfin, la rentrée des classes, pour moi, c'est un moment important, un moment émouvant. Donc voilà, je compte quand même repartir dans l'année en essayant d'exterminer tous les gens un par un qui posteront des selfies. Donc voilà, j'aimerais revenir là-dessus en quelques mots.
Eh bien, je t'écoute.
Est-ce que tu me laisses libre antenne?
Est-ce que je t'ai pas énervé parce que t'as bossé et que les gens te mettaient des photos de Chypre ou de la Grèce?
Mais complètement,
Il fallait le dire à l'auditeur avant, je crois.
Mais il faut savoir que Facebook...
Que tu es une grosse rageuse.
Tu vois les photos des autres, c'est un peu... Facebook, c'est les réseaux sociaux, c'est la seule porte de sortie que tu as depuis ton bureau du mois d'août.
Porte de sortie ou juste fenêtre que tu ne peux pas ouvrir?
Fenêtre sur
quand ton bureau est porte de Versailles, c'est ta seule porte de sortie.
C'est ça. Mais enfin, il faut quand même dire que c'est une pratique non seulement détestable, hein, parce que certains la nomment vulgairement autoportrait, même s'il n'y a pas grand-chose à montrer, alors que bon, voilà, il y a Kim Kardashian qui sait très bien faire ça, parce qu'au moins elle nous montre ses seins, et ça c'est très
bien. Et parce qu'au moins elle a une vie un peu intéressante, quoi. Elle voyage.
C'est ça, un voyage en l'occurrence. Elle, je ne sais pas, mais
elle ne montre pas la plage de Berck, quoi.
Non, c'est ça. Enfin, en tout cas, je ne suis pas capable de dire quelle est la plage, parce que je regarde que ses seins. Donc, revenons donc à cette pratique qui, pour détestable soit-elle, devrait donc être interdite pour moi. Hein. Et d'ailleurs, même encore pire que ça, ça devrait être puni d'une peine de prison, parce qu'il s'agit rien de moins que d'une incitation au suicide. Et oui, ne me regardez pas comme ça. Mais c'est d'une incitation au suicide, à la fois pour les gens qui postent et pour les gens qui regardent. Donc c'est la double peine, si je puis me permettre.
En fait, c'est un moyen d'exterminer la race humaine.
Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait condamner les posteurs de selfies? Parce que ce sont eux qui accomplissent cet acte criminel. Donc, vous vous souvenez peut-être de ce couple de Polonais qui se sont tués en voulant prendre une photo d'eux-mêmes au bord d'une falaise portugaise l'an dernier? Vous vous souvenez de ça? Devant les yeux ébahis de leurs enfants de 5 et 6 ans. Vous me direz que c'est un cas d'école, que c'est la falaise qui est dangereuse et que c'est pas le selfie. Mais vous vous trompez évidemment, enfin, je vais vous le prouver d'ailleurs. Parce qu'il est reconnu hein, par une étude américaine que le selfie est un marqueur du narcissisme.
Carrément.
C'est une enquête de l'université d'Ohio State. Enfin, c'est une étude américaine, quoi.
Il y a toujours une étude américaine pour confirmer des trucs. C'est trop pratique.
C'est formidable. Ce qui te permet quand même de prouver à peu près tout ce que tu veux. Donc, cette fameuse étude établissait l'an dernier un lien entre le nombre d'autoportraits mis en ligne et le comportement antisocial et narcissique, qui, je vous le rappelle, est une maladie mentale qui est reconnue hein, dans le Guinness des records de la psychiatrie, là, le DSM, qui nous dit que ce comportement est quand même assez assez dangereux. Mais bon, après, il faut revenir quand même aux origines. Et que dit le mythe de Narcisse ? Parce que c'est de tout par-delà, finalement. Donc, je vous rappelle que Narcisse, c'est une espèce de beau gosse qui finit par mourir dans la fleur de l'âge. Vous vous rappelez un peu de l'histoire de Narcisse, non?
Il s'est trop regardé et du coup il est mort de faim et de soif devant son image.
C'est un peu ça.
Mais alors, c'est vraiment une mort à la con.
C'est vraiment une mort à la con, parce que chez Ovid...
Il a été puni par je sais pas qui parce qu'il était trop beau et con.
Alors voilà, je pense qu'il faut revenir un peu sur ce...
Un peu comme Camille Lacour.
Sur ce... Non. Ah, oui, mais alors les muscles en moins.
On peut se le représenter comme un Camille Lacour.
Moi, je pensais plus à Delon, tu vois, enfin une sorte de Delon un peu blond. Mais on peut faire une sorte de mixte entre Delon et Lacour.
Il paraît qu'il était brun, Narcisse.
Voilà.
Dans les Métamorphoses, ils l'ont présenté comme brun.
C'est ça.
Et il a été puni par, je crois, Zeus, parce que de toute façon, Zeus, c'est un gros connard.
Il avait des racines, je crois.
C'est et parce qu'il avait dragué, parce qu'il avait dragué Echo.
Et alors, exactement, mais tu as des souvenirs merveilleux de tes cours de latin. Je vois que, je vois que tout ça est quand même
tout
assez. Oh, c'est là un peu flou quand même. Je vais vous rappeler en quelques mots. Donc, Ovid voilà, nous raconte cette histoire du beau gosse exaspérant et prétentieux, parce qu'il est très fier en fait, en plus, c'est ça le pire. Donc, il est voilà, un peu comme. Je me reprendrai l'image de Delon, solaire et con comme la lune. Quand il naît, le devin Tirésias, dont le nom d'ailleurs est assez révélateur, parce qu'en latin, je tirerai ça plus tard, Tirésias, du latin tiré, qui veut dire niqué, enfin voilà, et du vitil
as, qui a été veut condamné dire... quand même à être hermaphrodite, puis devin.
Bah évidemment, bah, tu vois un peu voilà. Quelle postérité
est juste. Tu as Homer, en fait, en présentatrice de cette émission, c'est Homer qui a écrit lui-même toute la mythologie grecque.
Mais oui, exactement.
Du coup, tu peux pas la voir comme ça.
Mais j'essaye pourtant, mais bon, question pour un champion, c'est bientôt, donc il va falloir s'entraîner.
Elle est prête.
Voilà. Bon, alors, le devin Tirésias dit donc, il se pense assez compétent, donc il affirme aux parents du jeune Narcisse que. L'enfant atteindrait un âge avancé s'il ne se connaissait pas lui-même. Bon, c'est un peu bizarre quand
c'est
même.
C'est un peu antisocratique quand même comme conseil.
C'est un peu, tu vois, bon, t'imagines si tous les psychologues scolaires de la Terre disaient ça aux parents, enfin, on serait un peu dans la merde. Donc, il le dit à ses enfants, donc ce qui revient aux parents à essayer de protéger leur enfant du reflet qu'il peut regarder. Donc, ne pas se connaître, tant mieux, sauf que au final, le petit Narcisse finit finalement par se voir dans une mare. Il se regarde, il s'observe, et sans pouvoir se saisir et se faire à lui-même toutes les choses bien sales qu'il aimerait bien se faire, parce qu'en fait, il aimerait bien se baiser, enfin, on va dire les choses comme elles sont. Il se laisse dépérir, parce qu'il n'arrive pas à s'attraper, à saisir cette image de lui-même, et donc il se laisse dépérir jusqu'à la mort. Donc, reprenons un petit peu.
Revenons à nos moutons.
Un selfie, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un sort de support permettant de se voir, voire de se mater soi-même ? Tentative un peu ridicule, hein, parce qu'on n'y arrive jamais. Sinon, Kardashian, elle ne nous ferait pas... nous gouffera pas avec moi et mes seins au volant, moi et mes seins au réveil, moi et mes seins au resto, moi et mes seins partout.
Avec mon mec.
Oui, non, mais j'adore ses seins. Enfin,
Et le pire, c'est qu'il y en a deux.
Et le pire, c'est qu'il y en a deux et jamais sous le même angle. Enfin, c'est formidable. Donc voilà, ce que nous, on appelle entre gens intelligents et cultivés ici dans ce studio, un éclatement de l'identité.
Pardon.
Si tu veux, chacun son langage. Donc l'éclatement de l'identité, c'est ça, c'est-à-dire la multiplicité des images qui s'additionnent, ces sortes de rictus forcés qui se juxtaposent, c'est pas facile à dire en radio, ça juxtapose, l'une chassant l'autre et qui ne fixe jamais rien de tangible. Donc le selfiste est condamné à faire des selfies encore, toujours, et puis à l'infini, quoi.
Et un peu comme Narcisse. Polluer les murs Facebook de tout
en polluant monde. Les murs Facebook, ce qui, ça, est tout à fait criminel déjà, rien que ça. Mais en plus, il tente d'atteindre sa propre image, tel Narcisse, donc il est condamné à mort, à plus ou moins brève échéance.
Et à ne plus jamais pouvoir l'atteindre.
Donc il va mourir un jour. Viendra. Soit il
bientôt,
tombera
on espère.
D'une falaise, soit il mourra de vieillesse avec son portable à la main. J'aimerais donc, voilà... Que nous tous, auditeurs de Radio Campus Paris, nous ayons l'élégance de ne pas mourir le portable à la main et que nous cessions de faire des selfies, ou alors que nous militions tous, communément, pour que ce soit condamné par la loi. Voilà.
Ou alors faisons peut-être des selfies extrêmement laids pour accélérer le processus.
Tout à fait.
Au lieu de faire des selfies de choses belles où les gens se disent « Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux les seins de Kim Kardashian », si on prenait plutôt des selfies de choses absolument atroces,
mais ça,
peut-être
j'en rêve.
Que ça accélérerait le processus d'interdiction du selfie.
Oui, moi, j'en rêve absolu. Le selfie du bourrelet, enfin, j'en ai quatre personnellement, je pourrais en faire plusieurs.
Les gens atroces se prennent déjà en photo. Donc c'est déjà mort.
Mais croit qu'ils sont
et pourtant ça marche quand même, je veux dire.
Ah, mais ils croient qu'ils sont
morts. Franck Ribéry fait régulièrement des selfies.
Oui, non, mais Franck Ribéry, il s'est tapé Zaya quand même. Donc, s'il te plaît, bon, tu peux dire ce que tu veux, mais toi,
après,
tu t'es pas tapé Zaya.
Après, il y a le selfie
voilà.
Des politiciens qui demandent aux gens de les prendre en photo exactement à un tel moment. Donc, c'est un peu un selfie, sauf que c'est pas tout à fait un selfie non plus. C'est pas mal aussi comme technique.
Oui, il y a le selfie publicitaire, il y a le selfie pour mamie aussi, ce site extraordinaire qui permet d'envoyer ta photo de selfie pour qu'elle te soit gratuitement envoyée à ta propre grand-mère qui va
c'est
ensuite
juste
payer pour avoir des
aussi.
Tirages photos. Voilà, non, mais c'est gratuit pour
c'est
toi qui envoie ton selfie.
Et après,
et
la grand-mère doit payer pour les imprimer.
Pour l'imprimer, voilà.
Et du coup, tu te libères ta conscience en te disant « Mais oui, je pense à ma grand-mère. »
Exactement.
On n'a pas le nom de ce site, mais c'est énorme.
Selfiepourmamie.com.
Ah, c'est trop bien.
Voilà, je vous invite. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. C'est une
réalité. J'ai une question. Est-ce que mamie doit payer avant de voir la photo ou après ?
Alors, c'est après. C'est une fois que tu veux des tirages supplémentaires, quand tu es mamie, tu dois payer.
Il y aurait eu moyen de faire des choses créatives.
Je suis sûr qu'elle paye.
Mais c'était la seconde conclusion de cette chronique. C'était l'incitation à l'euthanasie. Mais
oui, c'est ça.
Tuez vos grand-mères.
Il y a de quoi être créatif. Eh bien, merci beaucoup, Violette. On va tout de suite écouter une petite musique.
Yeah.
Et c'était la chanson Love de L'Âge d'Or. Et tout de suite, nous allons parler à Loïc, Loïc Gazard, l'animateur de la matinale, qui, je crois, est en ligne. Loïc, nous entends-tu ? Allô ?
Allô ?
Bonsoir. Allô ?
Est-ce que tu nous...
Allô ? Loïc ?
Oui, nous
entends. Donc, tu nous entends ?
De loin, mais...
Alors, il paraît que tu...
Moi, je vous entends.
Mais... Eh ben, nous aussi, on
t'entend.
Eh
ben, c'est génial. Alors, il paraît que t'es à La Réunion. Est-ce que c'est vrai ?
Eh oui, c'est une bonne information, plus pour très longtemps, puisque je rentre demain soir, je prends l'avion pour vous retrouver à Paris, où je crois d'ailleurs qu'il fait même plus chaud que là où je suis.
C'est pas vrai, il fait froid à La Réunion,
oui,
c'est monstrueux.
C'est l'hiver, Flore.
C'est l'hiver austral, et là, dans la commune où je suis, il fait un petit peu froid, puisqu'on n'est pas sur le littoral.
Et il donc, fait 20 degrés.
Quand je regarde la météo sur Paris, il fait plus chaud.
Quelle est la commune où tu es, Loïc ? C'est Jonathan qui te parle.
Jonathan, le réunionnais de Radio Campus Paris.
Oui.
Je suis au tampon.
Ah oui, il fait un peu froid au tampon, oui.
C'est où le tampon, les mecs? Le nom est assez flippant.
Est-ce que vous voulez vraiment savoir?
Le tampon, c'est dans les hauteurs et il y a des vents frais.
Ça va,
et à chaque fois qu'on est un peu plus haut que la mer, il fait plus frais.
Et alors, dis-nous, Loïc, qu'est-ce que tu fais là-bas à La Réunion? Tu y travailles? Tu y es en vacances?
Alors, je suis venu pour un mois de stage et je vais continuer à vous parler du froid puisqu'il y a une semaine très exactement... j'étais au volcan, puisque le volcan La Réunion est en éruption, pour aller voir cette éruption qui était quand même très belle, il faut bien le dire, j'ai dû marcher dans le froid et il faisait aux alentours de moins 2 degrés, mais c'était une très belle éruption que je suis allé voir. Donc du coup, je profite un peu de ce temps, que c'est dans le stage que j'ai fait ici ou sur mon temps libre pour redécouvrir un petit peu les sentiers de La Réunion.
D'accord, et donc ce stage, qu'est-ce que tu y faisais? Est-ce que tu faisais du reportage ou des jolies choses comme ça, ou rien du tout? Ou pas du tout, quelque chose de complètement différent?
Jolie, je sais pas. En tout cas, j'ai fait pas mal de reportages, effectivement. Ça a été un mois assez intense, donc j'étais dans une chaîne de télévision locale, et où j'ai pu faire pas mal de reportages, où j'ai pu exercer un peu ce métier loin de Paris et sur des terrains complètement différents. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai été au volcan en pleine nuit, j'ai été au bord de la mer, j'ai été dans plein d'endroits un peu recommandesques de ce genre.
Eh bah oui, il va pas glander quand même, hein, non plus.
Non, c'est sûr, mais alors est-ce que malgré tout, malgré ton stage, tu auras... Je suis perturbée en studio, excuse-moi, il y a des parasitages.
Mais non, pas du tout.
Mais
alors, est-ce que tu as pu... Pour Loïc. Je peux la poser. Je sais pas si on a le droit de le dire à cette antenne. Il paraît, Loïc, que ton nom est apparu sur une grande chaîne de télé qui n'est pas notre ami puisque c'était TF1, mais est-ce vrai?
Il paraît, mais on n'en dira pas plus.
C'est une rumeur, disons.
Oui, effectivement, mon nom est apparu par magie sur une chaîne de télévision suite justement à ce petit séjour.
Sur des images de lave.
Eh bien, félicitons-toi pour apparaître au bandeau de cette chaîne de télévision que nous n'aimerons pas à nouveau, puisque nous ne l'aimons pas. Voilà. Mais est-ce que tu as pu un peu découvrir La Réunion malgré ce stage intense? Est-ce que tu as pu un peu découvrir d'autres régions que celles du tampon?
Je suis originaire de La Réunion. Donc, du coup, j'ai redécouvert l'île à travers mon stage et à travers tous les déplacements que j'ai pu faire justement à cause de ce stage, puisqu'on était envoyé en reportage d'un bout à l'autre de l'île pendant un mois, donc c'était assez intense, et du coup j'ai pu redécouvrir un peu La Réunion.
Mais tu as beaucoup de chance, Loïc, d'être là au moment même où le volcan se remet à péter, et au moment également où les baleines sont à La Réunion.
Oui, enfin les baleines, il faut quand même dire qu'elles y sont un peu moins cette année que les autres années, malheureusement.
Ouais, j'ai cru entendre qu'elles se faisaient timides jusqu'à présent,
Le bruit du volcan, ça les a fait flipper.
Ouais. Mais ça va pas durer.
C'est pas forcément d'ailleurs le bruit du volcan. Je vous en parlerai peut-être d'ailleurs dans un prochain reportage pour Radio Campus Paris.
Mmh. Formidable.
J'en ai profité aussi pour faire un petit reportage pour vous, chers auditeurs de Radio Campus Paris.
Ah bah voilà.
Tu vas nous faire voyager là.
C'est ce qu'on attendait.
Tu as enregistré le bruit de la lave qui crache.
D'ailleurs, on a perdu un marrant. Il y a un enregistreur de cassé. Voulez-vous l'annoncer?
Grillé. Voilà. Tu as enregistré le son, Loïc?
J'ai pas enregistré le son de la lave, par contre j'ai le son des vagues de la mer.
D'accord.
Que je vous ferai écouter.
Je dis ça parce que va voir le volcan en éruption, ça fait un boucan pas possible. Quoi.
Toi aussi, Jonathan, tu as déjà vu un volcan en éruption?
Ah bah, le Piton de la Fournaise, oui.
D'accord.
De nombreuses fois. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit.
D'accord.
Ah oui.
C'est vrai que ça faisait beaucoup de bruit, c'était très impressionnant à voir aussi. En fait, on l'a vu de haut sur une falaise et le volcan, enfin, la lave coulait en contrebas et on avait un peu l'impression que c'était un peu... C'est un peu bizarre, mais on avait l'impression que c'était une espèce de ville immense qui était devant nous, mais non, en fait, c'était de la lave.
Qui avançait.
Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le volcan en éruption de nuit, c'est très impressionnant.
Ouais.
Eh bien, écoute, Loïc, merci beaucoup. Nous avons hâte d'entendre ton périple sur les différents reportages que tu feras pour Radio Campus Paris et donc surtout bon retour puisque tu t'en vas demain. À très bientôt, Loïc.
Merci, à bientôt.
Salut.
Au revoir. Eh bien, tout de suite, nous allons parler à Jonathan. Bonsoir, Jonathan.
Bonsoir.
Alors, toi aussi, tu es réunionnais, il paraît, mais...
Oui.
Mais tu n'es pas venu nous parler de la Réunion.
Non.
Tu as insisté lourdement sur ce point.
Il se trouve que j'y suis aussi allé en vacances cet été, mais j'y suis retourné. Mais oui, c'est pas forcément de ça dont j'avais envie de vous parler, oui.
Mais parce que cet été, tu as beaucoup crapahuté. Tu as été
un peu
partout.
Oui.
Tu as été sur les
bords
de...
Ça va, tu t'es bien gavé, mon cochon.
Tu as été sur les bords de Marne à vélo,
oui, mais ça a duré qu'une journée. Attention, hein, faut pas se méprendre.
Les bords de Marne.
Oui, oui.
Ah bon, d'accord, tu m'as vendu ça comme un périple de plusieurs semaines, mais en fait,
non, du tout.
T'as passé une journée à faire du vélo un dimanche après-midi.
Et on a sur les chemins.
Le chemin de Saint-Jacques, dont j'ai envie de parler aussi, ça a duré un peu plus longtemps.
Mais tu as été sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Oui, oui.
Alors, où ça? Et tu l'as commencé où, ce chemin?
Alors, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, on a voulu le faire. Donc, on est parti d'un village qui s'appelle Arthès de Béarn. Donc tout ce que je vais dire, normalement, c'est des villages que vous ne connaissez pas. Hein. À moins que...
Ah bah c'est un peu l'idée. Tu peux faire le test, est-ce que ça part de France ou est-ce que ça part d'Espagne?
Non, on a voulu rester en France. On n'a pas voulu...
Arthès de Béarn, ça sonne quand même bien français.
Ouais, ça sonne bien français.
Oui, c'est vrai.
On aurait pu passer en Espagne, mais on n'a pas voulu parce que déjà, ça montait beaucoup.
Hein,
quand on passe la frontière, c'est les montagnes, c'est les Pyrénées, donc on avait un peu la flemme. Puis en plus, il paraît que c'est moins beau. Et après le chemin jusqu'à Saint-Jacques, de toute façon c'est impossible, c'est trop long, et puis bah, c'est un peu plus chiant, donc on a voulu rester en France. Donc on est parti d'un village qui s'appelle Arthès de Béarn, donc comme son nom l'indique, dans le Béarn, et puis on a traversé des villages, par exemple Navarinx, un très joli village, et puis on a fini à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ah, ça, c'est plus connu.
D'accord.
Déjà.
Ouais, c'est un peu plus connu. Ouais.
Donc là, on est dans le sud-ouest. Hein.
Dans le sud-ouest.
Pas qu'un peu. Hein.
Dans le Pays Basque, pour être précis.
Et donc, vous avez parcouru combien de kilomètres au total?
Alors, on a fait 30 kilomètres le premier jour. Donc, je précise d'emblée à tous nos auditeurs que c'est beaucoup trop.
Il a encore mal au pied. Ce n'est plus un pied, c'est une ampoule
géante.
Et
ça, ce n'était que le premier jour.
Comment?
Ça, ce n'était que le premier jour.
Oui.
Vous avez quand même réussi à marcher un peu le deuxième jour.
Justement, pas tant que ça.
D'accord.
En fait, pour être tout à fait honnête, c'est dommage qu'elle soit pas là pour en parler, mais j'étais avec ma copine et le premier jour, elle s'est faite une tendinite.
Ah oui.
Ça, c'est les Parisiens, ça. Quand on vous emmène faire de la rando, vous tombez direct.
Effectivement, je reprécise aux auditeurs parisiens qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est amené à marcher souvent et un certain temps dans Paris, ce n'est pas pour ça qu'on est préparé à marcher.
Le long du canal de l'Ourcq, ça ne compte pas comme de la rando, les mecs.
C'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. C'est deux choses très différentes, de marcher dans Paris pour le besoin, ou pour plaisir d'ailleurs.
Pour pas payer un ticket de métro.
Voilà. ou pour marcher dans la nature sur le chemin de Saint-Jacques. D'autant plus que le chemin de Saint-Jacques a cette fâcheuse particularité d'être en béton. C'est-à-dire que faire le chemin de Saint-Jacques, c'est avant tout 80% du temps.
Tout le chemin est en béton.
Pratiquement, oui.
Ah,
c'est
bon,
pas des petits chemins.
Il a été bétonné à posteriori.
C'est-à-dire que ça suit des petites routes, des petites départementales, quoi.
Ah d'accord, tu restes sur des routes en fait.
Et ouais.
Pour tes pieds, c'est mieux, non?
Voilà, tout ça pour dire que
ça
fait mal aux pieds, quoi, au bout d'un moment, de faire 30 km sur du bitume.
C'est pire de marcher sur du bitume que de marcher sur de la terre.
T'as jamais fait du running, toi? Ça te renvoie toutes tes ondes. Quand tu tapes sur le sol, ça te renvoie tout.
Ouais. C'est pour ça que Martin, qui est grenoblois, se déplace toujours, comme il l'a actuellement dans le studio,
parce que contrairement à ce qu'on pense, le béton, c'est bien.
Il a vanté d'affirmer que lui aussi faisait dans les routes de la randonnée.
Alors malgré tout, on avait quand même des bonnes chaussures, mais le bitume blesse le pied, quoi. Le bitume agresse le pied. Donc, ma copine a fini par se sentir un peu mal le premier jour. Donc, finalement, on devait...
Ça a l'air trop sympa, c'est vraiment.
En fait, il a flingué les pieds de sa copine, ils ont fini en rampant. Voilà,
et vous avez, est-ce que vous avez mangé des pieds de porc dès le deuxième jour, du coup, vous avez un peu attendu
Alors, je précise à nos auditeurs que pied de porc, ça ne s'écrit pas P-O-R-C. Oui. Ça s'écrit c'est P-O-R-T. Mais c'est bien,
pied du
c'est bien Flore d'être, d'avoir fait l'erreur, comme ça, au moins.
Voilà. Comme ça, on peut le préciser, au pied du porc, donc vous avez mangé du poisson frais.
Non.
Non plus.
Non, je sais
Stop
pas
la partie gastronomique.
Je sais pas pourquoi ça s'appelle Saint-Jean-Pied-de-Port, pour être tout à fait honnête. C'est dans la montagne, il n'y a pas la mer, il y a,
rien y a du
un
tout,
petit
quoi.
Fleuve. Bon, mais on n'a pas mangé du poisson, c'est pas du tout la spécialité.
Vous avez mangé des châtaignes. Voilà.
Des châtaignes, non, c'est l'Ardèche, ça. Oh, mais dis donc. Ouais.
Vous avez d'autres questions cons comme ça ou...
Ah, bah tiens, voilà, Anne-Sophie, elle pourra
J'ai
vous parler.
J'ai une question presque intelligente, moi. Ouais. Presque, hein. Je ne comprends rien non plus, mais. Donc, du coup, le chemin de Saint-Jacques, c'est une connotation religieuse. C'était normalement un pèlerinage religieux. Tu croises beaucoup de gens qui sont là pour le pèlerinage ou c'est surtout maintenant des randonneurs, des baladeurs?
Bah, tu croises beaucoup de gens. Ça, c'est une vérité générale. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens sur le chemin. Un peu moins au mois de juillet.
Alors...
Parce qu'il fait chaud et que nous, on est un peu cons et qu'on l'a fait au mois de juillet. Mais tu croises beaucoup de gens. Je vais finir de répondre à la question une fois qu'on aura présenté Anso qui vient nous rejoindre dans
Bienvenue,
le studio.
Bienvenue, gentil. Merci. Et bah, justement, je reviens du chemin de Saint-Jacques. Là, j'ai mon sac sur le dos.
C'est ça.
Non, voilà,
tu t'es remis sur ta tendinite alors ?
C'est copine tendinite.
Petit à petit, oui, en effet, oui. En fait, j'ai fait l'erreur de marcher avec des baskets neuves.
Il ne
faut jamais partir avec des chaussures neuves, quelles que soient les chaussures, baskets, chaussures de marche.
Il y a plein de conseils aujourd'hui, c'est bien.
Voilà,
c'est randonnée, c'est le petit kit randonnée.
Randonnée magazine.
Il manque le vendeur de Decathlon autour de la table.
C'est ça, c'est ça. Oh, le site des marques.
Oh, pardon.
Le vieux campeur.
Le CSA ne vous écoute pas.
Donc, si vous partez en marche... Le meilleur conseil, c'est de faire vos chaussures avant, en fait. Donc, d'aller avec les chaussures dans lesquelles vous allez marcher, au travail, à la fac.
Si vous avez un travail.
Oui.
J'ai précisé tout à l'heure à nos amis que 30 km le premier jour, c'était un peu beaucoup aussi. On avait fait un peu fort, quoi. Un peu trop fort. Et en fait, je me suis basé sur un guide Michelin et j'ai vu qu'il y avait des étapes où il y avait marqué 29 km. Mais bon, 29 km, moi, je ne m'en rends pas compte. Et j'ai vu qu'il y avait marqué 7h30.
7h30. Non, mais c'est des menteurs.
Oh, bah, c'est des menteurs.
Il ne faut surtout pas. Suivre.
En plus,
9h, 10h, non, c'est pas possible.
Il n'y a pas vraiment de dénivelé, c'est plutôt plat, on va dire.
Ouais, non, ça va. On n'était pas dans une région où il y avait beaucoup, beaucoup de dénivelé, c'était relativement plat. Sauf un moment quand on commence à pénétrer dans le Pays Basque, là ça commence un petit peu y avoir du relief. Mais non, c'est pas.
Donc
c'est
vous
pas
êtes arrêté, vous avez arrêté ça à Saint-Jean-Pied-de-Port, ça avez...
Ouais.
D'accord.
On s'est arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a glandé là-bas 4 jours, histoire de bien.
C'est une belle activité aussi,
de bien vous reposer,
de nos émotions.
Voilà, parce qu'après Saint-Jean-Pied-de-Port, en fait, faut dire qu'il y a une grande, grande montée, parce qu'on commence à traverser les Pyrénées, en fait. Donc on s'est arrêté avant.
Juste avant la montée.
C'est le jeu de la randonnée, quoi.
Merci. Ça sent la randonnée organisée, bien logique.
Sur du béton,
avec le petit village agréable pour se reposer juste après, c'est formidable.
Ah oui, alors c'est du parfait. Coup, je termine de répondre à ta question. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens, évidemment, qui viennent pour des motifs religieux, qui sont partis de loin. La plupart des gens partaient du Puy-en-Velay, dans le
D'accord.
Cantal ou dans le centre.
En Auvergne.
Ils partaient de là, et puis... Mais rares sont ceux qui atteignaient Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça,
ils meurent avant. Du coup, leur corps jonche, là.
Oui, tu les reconnais avec les cadavres, avec les petites les petits coquillages qui
les petites croix,
s'accrochent à leur sac à dos, donc tu peux.
C'est comme des dog tags, ça s'appelle les identifier.
Surtout pas les toucher. Voilà.
Mais pour être honnête, la majorité des gens venaient pour une raison particulière. C'était pas forcément lié à la religion, mais ils venaient pour, se prouver quelque chose, découvrir quelque chose en eux.
Oui, parce que souvent, ils se posaient des questions sur la vie, en fait, c'est ça qu'on remarquait. Ou alors, ils avaient vécu une épreuve difficile, et puis ils voulaient rester seuls quelque temps, marcher seuls quelque temps.
Et vous
réfléchir.
Deux, quelle était l'épreuve qui vous a amené là?
Nous, c'est la pure envie, hein. Il n'y avait pas de...
Ils arrivaient super
joyeux. Avez-vous découvert des choses sur vous-même, justement?
On va dire qu'en 4 jours de marche, 3-4 jours de marche, on n'a pas pu non plus travailler sur nous-mêmes à fond les ballons.
Vous avez quand même découvert qu'il ne faut pas partir avec des chaussures de ville neuves.
Avec
des baskets neuves, et je trouve que c'est une découverte assez fondamentale.
Ça s'appelle découvrir ses limites.
Exactement. Et merci beaucoup pour ces enseignements sur la randonnée formidable. Nous allons tout de suite écouter une petite musique. Everywhere I go, and I can't face.
places like apartments, basements, garbage, vacant lots, garages, spaces. Harlem's far too spacious. Sometimes I wish I could get away and charter spaceship to get away from my inhuman race with hearts of Satan's. Kick off my Mason Martins, lay on back like Martha Mason. Smoke away my eye and lung to later die at 71. Pray the Lord my soul to keep. Gentrification split the nation that I once was raising. I don't recall no friendly neighbor's face from my upraising. Back in my younger days, a razor blades with gangs who bang and never stood a chance. Some boys don't dance but left from Harlem shaking on the pavement. In my generation, fuck up in my society. Burning trippy pictures of my diary. It's the irony how LSD inspired me to reach the higher me. Never give a damn that I don't give a fuck entirely. I think my pride died of me. Somewhere inside of me, it's gotta be a whole nother side of me. If you seen the shit that I'd have seen in 26 years of living, that's how many fucks I've given. So
et c'était donc Far Side de ASAP Rocky feat. Joe Fox. Et tout de suite, nous allons écouter un reportage de Fiona... Pardon.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Un jour, j'arriverai à glisser mes virgules de manière correcte.
Non, mais c'est bien, vous êtes presque réglo, quoi.
C'est à peu près
dans
ça.
Dans 10 jours, vous êtes bon, quoi.
On y est presque. Donc, nous allons écouter un reportage de Fiona Guitard parce que le 30 juillet 2015, une dizaine de familles ont été expulsées ou mal logées et donc se sont installées sous une bâche installée place de la République par l'association Droit au Logement. Et aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, c'est la rentrée des classes et c'est justement la principale préoccupation des familles qui vivent là depuis des mois. Donc, Fiona Guitard est partie pour Radio Campus Paris à la rencontre de certaines de ces mères qui craignent pour le bien de leurs enfants et surtout en ce jour si particulier pour tous les écoliers. On l'écoute tout de suite.
Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, votre âge et ce que vous faites ici ?
Anissa, mon nom de famille c'est Sani et j'ai 27 ans et je suis militante ODAL.
Vous êtes militante ODAL depuis combien de temps ?
ODAL, ça fait 3 ans je crois, quelque chose comme ça.
Et à Place de la République, quand c'est que vous avez commencé à militer ?
Là, sur cette action-là, on s'est installé le 30 juillet. Après, il y avait eu d'autres campements qu'on avait fait. On en a fait un en 2013 et on en avait fait un en avril de 2015, donc il n'y a pas très très longtemps. On s'est installé parce que on avait fait une précédente manifestation sur la première quinzaine de juillet, justement pour signaler le fait qu'on avait de plus en plus de familles qui arrivaient soit expulsées et sans solution d'hébergement, soit des personnes qui arrivaient avec des concours d'affaires publiques et des expulsions qui allaient se réaliser sur les mois de vacances. Et on a interpellé, il n'y a pas eu de réaction particulière, enfin, en tout cas on a été reçus, on a manifesté nos inquiétudes, les expulsions ont continué, et donc les gens sont sans solution, donc on en a décidé d'y aller tous ensemble et de s'installer Place de la République avec les gens qui n'ont pas d'hébergement, ceux qui sont menacés, pour demander un rendez-vous au ministère et à la ville de Paris, à Madame Hidalgo. Sur ces questions-là.
Je m'appelle Lamia, j'ai 33 ans. J'habitais au Lila dans le 93 dans un 2 pièces, donc 20 mètres carrés. J'ai deux enfants, 2 ans et 5 ans. Je suis mariée. Donc on s'est retrouvés dans cette situation parce que la propriétaire voulait récupérer son logement. Sauf qu'avant tout ça, moi j'ai une demande de logement depuis 2009 et j'ai aussi un DALO prioritaire depuis 2013. Donc jamais aucune proposition n'a été faite. Du coup, on se retrouve à la rue depuis 3 semaines.
Et vous avez prévenu auparavant, la propriétaire a prévenu qu'elle allait vous expulser ?
Oui, on a reçu un courrier du préfet qui dit qu'à partir du 20 juillet, on risquait d'être expulsé. Et on nous a expulsés le 21 au matin. La procédure dure depuis 2013. Je comprends tout à fait qu'elle avait récupéré son logement. Après, je ne peux pas m'en prendre vraiment à elle. On nous a promis un logement depuis 2013 à la préfecture de Bobigny et on ne nous l'a toujours pas donné, donc je ne peux pas m'en prendre à la propriétaire. Je m'en prends plus à la préfecture qui n'a pas tenu ses promesses. Mon mari dort ici depuis le début, donc tous les soirs il dort ici. Et donc il va travailler à 5h du matin, tous les matins. Il dort ici et il s'en va. Nous, on ne peut pas dormir parce qu'on a les enfants. Du coup, on est logé ou à droite ou à droite à gauche et ça nous est même arrivé de dormir dans la voiture.
Votre mari doit se lever tous les matins pour aller au travail. Ça se passe comment pour toutes les autres personnes ? Il y a une organisation particulière où chacun s'organise individuellement ?
Ceux qui travaillent, donc, qui se lèvent en premier. Et ensuite, il y a un relais pour surveiller parce qu'on est dans la rue, donc pour éviter les vols et tout ça. Donc dans la nuit, il y a plusieurs personnes qui surveillent à tour de rôle, toutes les 2 heures ou 3 heures. Ensuite, ils vont, pour ceux qui vont travailler. Puis moi, par exemple, mon mari part à 5 heures. Et au bon matin, je viens avec mes enfants pour prendre le relais ici. Depuis que je suis à la rue, j'appelle la mairie. Je vais à la mairie donc des Lilas pour voir, essayer de voir le maire. J'envoie un recommandé, je laisse mon numéro et jamais personne ne m'a rappelé jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'à partir du moment où vous êtes à la rue, tout le monde lève les bras et se dit « c'est pas de notre faute, on n'est pas là ». C'est malheureux pour les enfants, quoi. Ils passent les journées sous la chaleur ou sous la pluie et ils mangent dehors, on les change dehors. C'est inhumain. Pour les toilettes, on va aux toilettes publiques ou dans les cafés, McDonald's. Tout. On a des femmes qui sont là 24 heures sur 24. Vive les lingettes !
Et en septembre, il va se passer quoi si jamais la situation n'a pas évolué pour vous et vos enfants ?
Ben c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour la rentrée scolaire, comment on va faire pour les emmener, à quel endroit on sera logé, comment on va faire pour... je ne sais pas, honnêtement, c'est pour moi personnellement, j'ai l'impression que ma vie va s'arrêter au 1er septembre. Pour l'inscription des enfants, ben j'ai laissé à la même école. Si je dois faire un trajet de 1 heure ou 1h30 tous les matins et attendre toute la journée dehors pour les récupérer, je ne peux pas empêcher mes enfants d'avoir une vie normale. Je suis obligée de sacrifier.
Je m'appelle Iram et j'ai 34 ans. J'habitais dans le 19e. Depuis 2006, j'ai fait une demande à la mairie pour un logement social que je renouvelle chaque année. Et en 2010, j'ai fait une demande au droit au logement qui est passée favorable. On ne m'a fait aucune proposition. Je travaille pour la ville de Paris en tant qu'animatrice. L'année dernière, j'ai squatté à un appartement de RIVP, c'était un logement social. Et ils m'ont convoqué, je leur ai expliqué ma situation. Ils ont dit, écoutez madame, vous êtes rentrée comme ça. Nous, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de bail, il n'y a rien. Quoi. Vous pouvez rêver pour un logement. Quoi. Si j'ai fait ça, c'est vraiment pour protéger mes enfants. Elle avait 4 mois, donc je ne pouvais pas vivre à la rue quand même avec mes enfants. Le gros problème, c'est la scolarité de mes enfants. Mes enfants, ils sont inscrits dans le 19e, mon travail est dans le 19e. Mais malheureusement, ils m'ont donné l'hôtel dans le 78, à 50 km de Paris. Et je n'ai pas de voiture. Et pour les transports, c'est vraiment galère. Quoi.
C'était donc le reportage de Fiona Guitard.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Alors, ça c'était le bonheur de Martin, parce que j'ai réussi à mettre la virgule au bon moment. Pour poursuivre cette émission dans le bonheur, parce que c'est la rentrée, je vous ai concocté un petit blind test. Un blind test sur le thème suivant, les séries télé qui se passent dans des lycées. Déjà, ça vous donne...
Arte et Ravi.
Attendez, donc elles sont toutes anglophones, c'était à peu près le principal indice que je puisse vous donner, mais certains des extraits sont doublés, parce que c'était plus simple à reconnaître, etc.
Est-ce que tu pensais qu'on était nuls en anglais?
Exactement.
Parce qu'il y a des auditeurs nuls en anglais. Chut,
allez, il faut écouter un peu le test. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier son?
Oui,
vous êtes prêts? On y va.
Arte et Ravi. Ah non, pardon. Harry Potter.
J'ai laissé tout le générique juste à ce que vous trouviez. C'est le moment de lancer des idées.
Là ça fait vraiment...
Qu'est-ce que c'est, quoi.
Ça fait plutôt Thalassa. Hein.
Voilà. C'était quoi le truc de Pixar avec la gamine qui faisait de l'art
en Écosse? C'est une série.
Non mais je cherche.
Rebelle.
Le Rebelle.
Non. C'est une vieille série.
Ah, t'as kiffé prendre ça dans Lorenzo Lamas, quoi.
C'est le début des années 2000.
Donc c'est une série américaine.
Oui.
Un New York 911 au lycée.
Le non. rebelle se passe dans un
Boston lycée. Public.
C'est bien connu.
Merci Maxime, c'était Boston Public.
Oh, bravo.
La série donc créée par David E. Kelley qui se passe dans un lycée et il y a un peu des embrouilles entre les élèves, entre les profs.
Parce qu'en fait, c'est le cerf des poètes disparus, mais en série en fait.
Ah, c'est un peu ça, ouais. D'accord. Avec un proviseur black pour faire genre bien, on est une Amérique qui évolue, qui progresse, etc. Alors, deuxième son, on l'écoute tout de suite.
Aux grandes vacances, pendant que tu étais à Paris.
Je t'ai dit que j'avais rencontré une fille.
Beverly Hills.
Oh, le
bravo Maxime.
Maxime a vu,
bravo Maxime,
Maxime a vu tous les épisodes dans toutes les langues.
Ah, je me disais bien que les voix doublées seraient plus efficaces que les voix non doublées.
Dylan McCain, bien sûr.
Un trio, le fameux triangle amoureux de Beverly Hills entre Dylan, Brenda et Kelly. Kelly, voilà, parce que le méchant Dylan a trompé. Parce que le méchant Dylan a trompé la jolie Brenda avec la encore plus jolie Kelly.
Je sens que Dylan était un idole de jeunesse, Maxime.
Et on va écouter un troisième son, allez.
I'll explain. You see, Lily was a kindergarten teacher.
Ah ouais, mais tiens, madame.
Très bien. Et alors j'enchaîne tout de suite avec le quatrième son parce que c'est un peu le meilleur de tous.
Arrête de dire.
Voilà.
La mer noire. La mer noire. C'est pas ça, la mer noire.
C'est vrai qu'il était bien là quand même.
C'était tout à fait ça.
Attends, laisse.
On laisse un tout petit peu, juste le temps d'annoncer que nous allons très vite entendre le vol 939, la fiction radiophonique de Maxime Fassiotti.
Ça pourrait être le générique du vol 939.
On voit Drazik avec ça.
Ah oui,
ça me rappelle mes mercredis.
Et l'autre qui avait des petites
traces
cheloues.
Et donc on écoute tout de suite la fiction de vol 939 de Maxime Fassiotti.
Précédemment, dans vol 939, toute l'équipe a finalement décidé de prendre le train pour rejoindre le bateau pour aller à New York.
Bonjour madame, ticket s'il vous plaît.
Tenez.
C'est un billet d'avion ça madame, nous sommes dans un train, c'est plus long, c'est moins gros et ça avance sur des rails.
Oui, je sais, mais c'est le commandant qui a nos billets.
Le commandant du train ?
Mais non, de l'avion.
Bien, il est certainement pas là vu que nous sommes dans un train.
Désirez-vous un café ?
Ah oui, je veux bien.
Excusez-moi, vous êtes qui ?
L'hôtesse.
Du train ?
Mais non, de l'avion. Si vous souhaitez un café, ça fera 5 euros.
Hein ? Mais ce n'est pas compris dans le prix du billet ?
De l'avion, oui, mais pas du train, puisque nous sommes dans un train.
Ah, c'est bien ce que je dis.
Bonjour à tous, je suis le commandant de bord de l'avion.
Non, non, on est dans un train.
Oui, bah, ça n'empêche pas d'être commandant de bord d'un avion.
Oui, mais...
Bref, voilà votre billet.
Ah, merci.
Et votre billet, il est où ?
Eh ben, il est là.
Non, 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 pas vous, lui.
Mais qui, le commandant ?
Oui.
Du train ?
Mais non, de l'avion.
Ah, mais vous voyez bien qu'il y a un commandant d'avion.
Bah, arrêtez de m'embrouiller, je parle à vous.
À moi ?
Oui. Donnez-moi votre billet.
Bah j'en ai pas, je suis le pilote.
Du train ?
Bah non, de l'avion.
Oui mais on est où là ?
Bah dans un train.
Exact, donc vous ne pilotez rien du tout, donc vous êtes un passager, donc vous payez votre place.
Ah excusez-moi, je suis le responsable de 150 passagers de mon avion qui ont pris le train.
Oui, mais là, vous êtes rien du tout, donc si vous n'avez pas de ticket, vous descendez à la prochaine gare.
Le commandant va-t-il devoir quitter le train ? Les passagers vont-ils être livrés à eux-mêmes ? Qui accepte de payer 5 euros pour boire un café dans un train ? Découvrez-le dans le prochain épisode de Vol 939.
Et bien sûr, ces beaux mots, nous touchons à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir repris les choses et d'être venus à la rentrée. Merci Martin, merci Violette,
merci
Maxime, merci Jonathan. Mais
merci,
ne vous
Flore.
Inquiétez pas, Radio Camping reste à vos côtés. Jusqu'à la fin du mois de septembre, même si c'est la rentrée, on se consolera tous ensemble. Et donc rendez-vous dès demain, prenez votre mal en patience, on est là.